Bien, bah je.
Oui, bah bon, on est au zéro, et puis ça va, hein, c'est bon.
Bonjour. Bon, bah je crois que nous allons commencer parce que si on veut tenir les temps et avoir les questions des spécialistes en science-fiction qui sont là au premier rang, que j'identifie. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Daniel David, qui fut donc directeur de recherche au CNRS, qui a fait une thèse sur le colonel Drian, l'objet de cette conférence, et qui est aussi colonel du cadre de réserve, c'est cela ?
Oui.
Voilà. Et donc spécialiste aussi des affaires militaires. Donc, l'homme idoine qui a écrit ce magnifique livre donc, sur le colonel Drian et le capitaine Danrit. On va découvrir les deux aspects de l'homme et que pour l'avoir lu, je vous incite tous fortement à aller l'acheter après à la librairie et à profiter de la présence de l'auteur pour vous le faire dédicacer.
J'ai déjà touché les droits d'auteur, donc le propos est désintéressé.
Voilà. Bon. Monsieur David, la parole est à vous.
Parfait. Bon, bien, madame, messieurs, je vous remercie d'être venu. Je vais vous parler donc d'un personnage qui a eu une heure de gloire entre les deux guerres, et puis la Deuxième Guerre, comme vous le savez, est passée par là, et beaucoup des personnages très connus de la Première Guerre se sont trouvés de ce fait éclipsés. Vous m'entendez ? Je vais monter un petit peu le son, si vous voulez.
Non, mais je crois que comme c'est enregistré, il vaut peut-être
vous
mieux.
Temps. Voilà. Bon, alors, c'est enregistré. Ça va comme ça ?
Il marche ?
Je ne vous assourdis pas. Bien, une particularité du colonel Drian en littérature capitaine Danrit est d'avoir touché à trois domaines, l'armée, la politique et la littérature. Donc ce diaporama est en fait prévu pour une durée nettement plus longue, d'à peu près 70 minutes sur la base d'une diapo à la minute, et comme je n'en ai que 40, je l'ai réduit bien sûr, mais je serai quand même amené à accélérer éventuellement un peu sur des images qui représentent essentiellement une belle vue, mais qui n'appellent pas beaucoup de commentaires. Et j'essaierai d'accentuer, en revanche, un peu l'aspect Lorraine, en raison de l'endroit où nous nous trouvons. Donc voici là un cadre chronologique très réduit qui vous donne à peu près le domaine dans lequel va se dérouler l'action sur le plan chronologique. C'est l'entre-deux-guerres 70-14. Très peu de choses près, avec quelques dates clés. Je ne vous les commande pas là, parce que j'aurai l'occasion de revenir sur elles.
Oui. Excusez-moi une seconde, je crois qu'on vous a donné un micro qui n'est pas allumé. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant ?
Oui. Ah, peut-être, voilà. Je disais aussi que je ne m'entendais pas. Mon Dieu. Donc, vous avez là quelques dates clés sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Vous passez, s'il vous plaît. C'est la première partie, donc une carrière d'officier. Pourquoi Drian, qui était né en 55 à peu près, pourquoi s'est-il lancé dans la carrière militaire ? Eh bien, une citation suffit à bien l'expliquer. Il a écrit dans l'un de ses nombreux textes, « J'ai encore dans la mémoire la vision de ces bataillons qui passaient devant la maison de mes parents, casque en tête. Cela revenait de Sedan. J'avais 15 ans et je comprenais. Aujourd'hui, quand j'entends la jeunesse s'égarer dans des rêveries humanitaristes, je me dis, s'ils avaient connu cela. » Et ça explique finalement l'engagement de toute une vie. Donc, vous avez là le cadre. Je saute toujours des étapes, mais dans l'intervalle entre les deux diapos, là, il a fait Saint-Cyr, il est sorti sous le lieutenant, il est maintenant lieutenant. Sa première affectation intéressante, c'est le fort de Liouville. Vous voyez, je fais quelques bonds volontairement dans l'espace et dans le temps. Et le fort de Liouville, sans doute certains d'entre vous le savent-ils, se trouve au-dessus de Saint-Mihiel à peu près. Il est au milieu des rideaux nord, des fortifications serrées de rivières qui avaient été édifiées après la défaite de 70 de façon à improviser une défense de la frontière qui passait tout près d'ici, puisque Nancy était à ras de la frontière et Metz était de l'autre côté, un territoire allemand. Donc l'idée directrice de ces fortifications était d'utiliser le relief des Hauts-de-Meuse pour faire un barrage de fort de Verdun à Toul, englobant donc Saint-Mihiel et le fort de Louville sur les hauteurs, puis un intervalle sans fortification, c'était la trouée de Charmes, devant laquelle se trouve à peu de choses près Nancy, et un deuxième rideau fortifié d'Épinal à Belfort. Nous sommes donc tout à fait ici au cœur de ce plan stratégique, et j'utilise ce terme à dessein, conçu par le général Séré de Rivière. Nous sommes à la limite nord du rideau sud des fortifications Séré de Rivière. Au milieu du rideau nord, il y a donc ce fort de Louville, qui est un fort intéressant, qui domine la vallée de la Meuse. Et vous avez en pointillé bleu la frontière de l'époque. La frontière de l'époque avec évidemment Strasbourg et Metz qui se trouvaient en territoire allemand. Eh bien, Louville se trouve à peu près ici. Voilà Verdun, Toul, le rideau nord, Épinal, Belfort, le rideau sud, Nancy qui est là, très mal placé, mais ce n'est pas de la faute de Nancy. Et le fort de Louville se trouvait là. Bon, donc Drian a été affecté pendant quelques années à ce fort de Louville, ce qui lui a donné plus tard l'idée d'écrire un de ses premiers romans intitulé « La guerre de demain ». Vous passez ? Alors, après l'affectation à Louville, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais je n'irai pas beaucoup plus loin, il a été affecté en Tunisie, et vous avez vu peut-être sur le résumé chronologique que je vous ai donné, période tunisienne, elle a été assez longue, puisqu'il est resté assez longtemps en Tunisie, et ce séjour tunisien, en fait, a été entrecoupé par deux séjours métropolitains. Vous voyez donc il faudrait entrer dans le détail chronologique de ces différentes affectations pour s'y retrouver. Toujours est-il que quand il est arrivé en Tunisie, il a été affecté au 4e régiment de Zouave. Il avait tout d'abord été affecté à la brigade topographique qui faisait des levées en Tunisie. Ça n'a pas duré très longtemps. Si je vous mentionne cela, c'est parce que les officiers recevaient à l'époque une formation très complète en topographie. Et il a d'ailleurs fait un plan de Louville que nous avons signé, lieutenant Drian, dans un coin. Et la Tunisie, à cette époque-là, était fort intéressante et faisait l'objet de savants travaux. Notamment, c'était l'époque des idées du capitaine Rouder sur la mer saharienne, l'inondation des chottes à partir du seuil de Gabès. Et pour la topographie, eh bien, ça fait penser tout de suite au colonel Goulier, que personne ne connaît à l'heure actuelle. Je lui ai consacré un article récemment dans la revue historique des armées. Goulier, à cette époque, les années 1880, avait entièrement refondu les méthodes et l'instrumentation de la topographie. Ça a été un grand nom de la topographie militaire. Alors, je reviens au 4e Zouave. Le 4e Zouave avait repris les traditions du régiment des Zouaves de la Garde. Celui-ci avait réussi à s'échapper tant bien que mal au moment de la capitulation de Metz, mais il n'avait pas sauvé son drapeau. Le maréchal Bazaine avait prescrit que les drapeaux des corps de l'armée de Metz soient déposés à l'arsenal pour y être brûlés, détruits, et en fait, ils avaient été livrés aux Allemands. Mais le drapeau du 4e Zouave n'était pas dans ce cas. Le régiment avait refusé de le livrer et il avait été lacéré des morceaux du drapeau étant remis à un grand nombre de Zouaves dans l'attente de jours meilleurs. Dayan avait été chargé de recueillir un certain nombre de ces morceaux dans un but de pieuse reconstitution. Ça lui avait inspiré un à-propos, un vers, un dialogue entre un ancien Zouave, un Zouave de la garde, et un nouveau Zouave, un homme du 4e Zouave servant en Tunisie. Voilà, ça s'appelle les deux drapeaux. C'est charmant, émouvant. Vous avez là la poignée de main entre le jeune Zouave et son ancien. Vous passez ? Une vue de Drian, alors toujours ce que j'appelle la période tunisienne. Il a été, assez rapidement de son arrivée en Tunisie, nommé officier d'ordonnance du général Boulanger, qui commandait la division d'occupation de Tunisie. Puis Boulanger est devenu ministre de la guerre. Drian l'a suivi au ministère de la guerre. Il n'a pas été associé au mouvement politique du boulangisme, mais enfin, il avait suivi son patron au ministère de la guerre, et après quoi il est revenu de nouveau au 4e Zouave. C'était assez compliqué, et il a épousé l'une des filles du général Boulanger, Marcel Boulanger, ce qui lui a valu les pires ennuis par la suite, d'ailleurs pour la suite de sa carrière. Alors, sur cette photo, vous voyez Drian, il est déjà marié à Mademoiselle Boulanger, et il a été pendant un temps capitaine instructeur à Saint-Cyr. Vous le voyez là, en tenue de Saint-Cyrien, il est capitaine et il est marié, il est devenu le gendre du général Boulanger. C'est une affaire assez compliquée sur le plan chronologique. Je la résume à l'extrême, comme vous pouvez le voir. Puis, après ce deuxième intermétropolitain, le premier, c'était le ministère de la guerre avec Boulanger, le deuxième, c'était Saint-Cyr, et il est retourné une troisième fois en Tunisie. Vous voyez que ça a été quelque chose d'un peu entremêlé. Il reste de ses séjours en Tunisie deux maisons que les Drian avaient fait construire, qui sont de fort belles maisons d'ailleurs. L'une à Tunis, c'est la ville de la Marcelle, du nom de son épouse. Et l'autre, c'est une maison de vacances qu'ils avaient fait construire à Sidi Bou Saïd. Sur la côte, Sidi Bou Saïd, à l'époque, était complètement désert. Il n'y avait rien. Il y a des photos de l'époque de la maison. Elle est au milieu de nulle part. Maintenant, c'est une propriété luxuriante qui est fait partie du site de Carthage. Il a eu l'occasion de faire des fouilles archéologiques sur le site de Carthage. Je ne peux pas aborder ce point parce que j'y passerai beaucoup trop de temps et je vous assure qu'il est très frustrant d'être obligé, comme je le fais, de sauter sans arrêt sur des points qui appelleraient des développements à la fois très utiles et très intéressants. Donc nous passons. Et voilà. Alors c'est également à cette époque qu'il s'est lancé dans la littérature en écrivant un premier roman, assez long d'ailleurs, en plusieurs volumes, qu'il a intitulé « La guerre de demain ». La guerre de demain comprend trois parties, la guerre en race campagne, la guerre en ballon, très fantaisiste, et puis la guerre de forteresse, qui est la transposition au roman de son expérience de Liouville. La guerre de demain a été son grand début en littérature. Il a fallu, comme il était en activité de service, trouver un pseudonyme. Ça a été Capitaine Danrit. C'était un pseudonyme transparent. Drian, Danrit. Alors voilà, il en existe différentes éditions. Voilà une vue, c'est pour la jeunesse, évidemment. Voilà une vue d'un... ça, c'est un format, une 16, petit format, donc broché. Voilà une vignette de couverture d'une des éditions de La guerre de demain. Nous continuons. Alors maintenant, nous approchons de la fin de sa carrière militaire, c'est vous dire que je survole. Une très belle photo, il est chef de corps du 1er bataillon de chasseurs à pied. Il a quitté les Zouaves, sa carrière ne se déroule pas comme elle le devrait à cause de l'affaire des fiches, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir rapidement tout à l'heure. Il avait dans son dossier une mention qui disait à peu près « le gendre du général Boulanger ne passera jamais général ». Bref, ça se passait mal. Néanmoins, il a obtenu le commandement du 1er bataillon de chasseurs à pied, qui était une unité d'élite en garnison à Troyes. Et le voilà en tenue de sortie du 1er BCP. Ça se situe entre 1900 et 1905, à peu près. Mais sa carrière était déjà sérieusement compromise. Nous passons. Et nous enseignons maintenant son œuvre littéraire. Bon, je vais passer assez vite sur son œuvre littéraire parce qu'elle fera l'objet demain d'une table ronde dont parlait M. Rivera tout à l'heure. Donc, délibérément, je vais raccourcir cette partie. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne le savais pas quand j'ai fait ce diaporama réduit. Alors, je vais vous faire défiler un certain nombre de couvertures de livres, avec un ou deux mots d'explication. Nous continuons. Alors là, c'est quelque chose, c'est un texte intéressant. On lit très facilement l'écriture de Drian quand on l'a sous les yeux. Mais je ne vous demande pas de la lire en détail, mais cependant, c'est intéressant, c'est un envoi. Je dédie cette nouvelle édition populaire de La guerre de demain, le livre de ma jeunesse, aux compagnons d'armes que j'ai dû quitter avant l'heure et aux petits soldats que j'ai toujours aimés. Si mon rêve de jeunesse venait à se réaliser, je n'aurais plus qu'un désir, reprendre ma place dans le rang. Si l'échéance recule encore, je remplirai cet autre devoir de défendre contre l'ennemi de l'intérieur cette armée à laquelle j'avais espéré consacrer ma vie. Il faut reconnaître que, présenté comme ça, ce n'est pas très lisible de là où vous êtes. Commandant Drian, 1905, c'est à ce moment-là qu'il a pris sa retraite, il a quitté l'armée en étant passablement découragé par son avenir totalement bouché, essentiellement à cause de sa parenté avec Boulanger. Suivante. Alors voilà, un certain nombre maintenant, nous avons changé, nous passons du format INSES au format Grand Inuit. Un certain nombre de ces volumes ont été publiés avec des cartonnages illustrés à la manière de Hetzel pour Jules Verne ou encore de Flammarion et d'autres pour Paul d'Ivoire. Alors je vous rappelle, ce ne sont pas des reliures, ce sont des toiles peintes appliquées sur des cartonnages. Voilà une magnifique illustration d'un roman qui s'appelle L'Alerte. L'Alerte, c'est l'alerte, c'est basé, paraît-il, sur des faits réels. Des Lorrains, dans la région où nous sommes, ou à peu près, pensent sur la base d'une fausse information que la guerre est déclarée et que l'Allemagne attaque. Donc ils passent eux-mêmes à leur propre guerre en sabotant des voies ferrées allemandes. Voilà l'idée directrice, et il paraît qu'il y a eu un fait de ce genre où les habitants d'un village, paraît-il, ont cru que ça y était, c'était déclaré. Voilà l'alerte, la locomotive allemande déraille en pleine vitesse sur le pont, ça vous donne évidemment le style, vous continuez. Voilà, alors ça, c'est un autre roman, Les Robinsons souterrains, c'est la guerre souterraine. Et à propos de Liouville, les éparges, un des hauts lieux de la guerre des mines, sont tout près de Liouville. Donc vous voyez que nous restons dans ce cadre lorrain. Alors l'action est incessante, les protagonistes se trouvent placés d'emblée dans une situation de tension épouvantable, et puis ensuite tout s'enchaîne dans une intrigue qui laisse le jeune lecteur constamment passionné. La suivante. Alors la suivante, c'est le sous-marin échoué. Ça a été inspiré par la perte du sous-marin Lutin, je crois même qu'il y en a eu deux, dans le lac de Bizerte. Des sous-marins qu'on n'a pas pu sauver, bien qu'ils fussent à une très faible profondeur, ils n'avaient aucun moyen de les renflouer, et les équipages sont morts à petit feu dans les épaves des sous-marins, dans le lac de Bizerte. Alors là, vous avez le scaphandrier qui descend sur l'épave du sous-marin, ça vous donne tout de suite l'ambiance. Suivante. Alors là, oui, quelque chose de très bien, au-dessus du continent noir. C'était aussi l'époque des guerres coloniales, alors là, vous ne le voyez sans doute pas très bien parce que la pièce est éclairée. Vous avez en l'air un avion à décollage vertical qui, avec un projecteur qui éclaire le sol. Il a une hélice à axe vertical. Dessous, des gens qui galopent, des indigènes qui galopent en brandissant leur mousquet. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'accroché à la selle du cavalier, là, il a la tête coupée d'un blanc. Mais il faudrait la voir dans le noir. Elle est là. Oui, elle est là. Je ne vous ferai pas de commentaires plus détaillés. La suivante. Alors, ceci. Ah oui, c'est une illustration très belle. L'illustrateur s'appelle Dutriac. Vous avez de nouveau l'avion, l'hélicoplane, l'avion décollage vertical. On voit son hélice supérieure là au-dessus du plan. Et il est attaqué par des rapaces, magnifique illustration, on tire à la carabine depuis l'avion, et vous avez là l'un de ces rapaces qui vient de morfler, si je puis m'exprimer ainsi. Le dessin est particulièrement réussi. Suivante. Alors, ah oui, les sous-marins. Alors, les sous-marins. Là, je lis couramment les manuscrits de Drian, mais il est plus simple pour moi de vous les lire, alors, surtout en tenant le micro. Ça vous évite également de vous écarquiller les yeux. Alors, c'est dédié à mes camarades de l'armée de l'air, et en particulier, écrit-il, au savant constructeur et hardi commandant des sous-marins qui nous ouvriront la route, c'est la perspective de la guerre contre l'Angleterre, avec l'histoire de la jeune école. Donc, je dédie ce livre, faible reflet de la chaleureuse admiration qu'ils inspirent à tout Français de cœur et de race. Puisse le rêve triomphal qui le termine se substituer dans peu à l'humiliante réalité de l'heure présente. L'armée française, hélas, de faire dans le monde figure de vaincu. Vous passez à la suivante. Alors, c'est bon. Alors ça, très beau tableau, la guerre fatale, ça a été illustré par Couturier. Couturier, comme dessinateur, je ne le trouve pas très sensationnel, ça fait un peu grisaille. En revanche, c'était un peintre de toute première qualité, qui portait le titre enlevé de peintre de la marine. Et à propos de ce roman de la guerre fatale, il existe un tableau fait par Couturier. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Je connais celui que j'ai pu acheter à mon prix. Et voilà l'image de la guerre fatale avec à l'arrière-plan, ce sont des bateaux de guerre anglais qui coulent, et puis vous avez la mer agitée, enfin bref, un sous-marin français vient de couler, un cuirassé anglais, quoi, en gros. C'est le sujet, c'est un très beau tableau de couturier, il existe au musée de la marine notamment, du tableau immense, de grand format, signé couturier. Hein, c'est de très belles œuvres graphiques. Nous continuons. Nous continuons. Le dirigeable, là, au-dessus des pôles, vous voyez l'ours blanc. Le dirigeable s'appelle le Patrie. Vous voyez, c'est tout un programme. Il avait utilisé pour cela comme idée. Bon, le dirigeable se perd dans les glaces. Évidemment, il faudrait pouvoir le réapprovisionner en hydrogène. Et les naufragés de l'air, les Robinsons de l'air, trouvent dans une grotte glacée les restes de l'expédition André. Vous savez que l'expédition du Suédois André vers le pôle en ballon libre s'est perdu, et que très longtemps après, on a retrouvé dans une grotte glacée ce qui restait des membres de l'équipage, ainsi que des plaques photographiques qu'ils avaient prises et qui ont permis de reconstituer le drame de l'expédition André. Alors là, les personnages du roman tombent sur les vestiges, évidemment, et en particulier sur la réserve d'hydrogène solide que transportait André, qui permet bien à point de regonfler leur ballon, le Patrick, comme ça, pour regagner son port d'attache. Suivante. Alors celui-là, bon, je vous montre pas tout. Hein. Celui-là, c'est l'histoire d'une famille de soldats. Il suit évidemment toute une famille de génération en génération. Le titre générique, c'est l'histoire d'une famille de soldats. Il a fait également des romans à la gloire de Napoléon, Évasion d'empereur. Napoléon s'évade de l'île d'Elbe. Il y a également un roman inspiré par l'alliance franco-russe qui s'appelle Ordre du Tsar. En gros, il y a une bonne vingtaine de romans divers. Vous passez là, s'il vous plaît. Voilà. Alors ça, oui, c'est un roman très particulier c'est la guerre civile. C'est la révolution de demain, le titre. Et alors, vous avez là une illustration qui est inspirée évidemment par l'histoire des canons de Montmartre au début de la Commune. Hein, et alors la légende, c'est vive la sociale, crie-t-elle d'une voix chaude et vibrante. La fille est sur le canon. Dans quelques minutes, elle va prendre une balle et les choses vont se gâter sérieusement. Ça évoque manifestement l'histoire des canons de Montmartre que je ne vous explique pas dans le détail. La suivante. Voilà, nous en parlions tout à l'heure, nous en reparlerons demain. C'est l'affrontement entre les Américains et les Japonais. Où l'a-t-il placé à Midway, au milieu du Pacifique. Donc c'est un clin d'œil par anticipation à la Deuxième Guerre mondiale. Nous en parlerons demain. Et le commandant du fort américain de Midway est un officier français. Il faut quand même que... Bon. Voilà, nous continuons. Bien. Alors, où en sommes-nous? Ouais. Quand même cravaché. Bien. Alors, c'est très, très frustrant. Hein. Je suis obligé de saboter mon propre exposé, en quelque sorte. Alors, vous vous rendez compte que même en essayant d'aller vite... Bon.
Nous accordons 5 minutes de plus, ouais, à Monsieur David, et 5 minutes de moins pour les questions. Voilà. Vous avez gagné 5 minutes.
Voilà, vous êtes un fin négociateur. Bon, alors, un officier dans les luttes civiles, il a démissionné de l'armée en 1905. En 1906, il s'est présenté aux élections législatives à Pontoise. Là, il n'a pas été élu. En fait, il a été élu député de Nancy en 1910. Mais dès 1906, il s'était lancé dans le journalisme, et d'une part, et puis dans des textes également à caractère plus polémique, car on peut se demander ce que pensait vraiment cet homme. Il y avait ses romans, oui, bien sûr, mais les romans étaient destinés à la jeunesse. En fait, il devait avoir quand même des idées plus précises, plus approfondies, que les récits forcément très simplifiés qu'il destinait à la jeunesse. Alors, le suivant. Alors, dès son retour à la vie civile, il a suivi pour le quotidien L'Éclair, avec lequel il collaborait, les manœuvres allemandes de Silésie. Il en a tiré un petit livre au titre évocateur, Vers un nouveau Sedan. Vous avez là une image en couverture de ce petit livre qui représente Guillaume II. Ce qu'on ne voit pas, c'est que la photo a été détourée à l'époque pour isoler Guillaume II. En fait, il est à côté d'un autre personnage qui, sur l'image, serait à sa droite. Et celui-là, on l'a supprimé de l'image, et cet autre personnage, en uniforme d'ailleurs, c'est Churchill. ce qui est tout à fait inattendu. On les a photographiés tous les deux, puis comme on avait besoin d'une belle illustration de Guillaume II, on a supprimé tout. Voilà. Bon, alors vers un nouveau Sedan, c'est sa vision et le cri d'alarme qu'il pousse. Il a été manifestement très impressionné par la discipline des Allemands, qu'ils soient civils ou militaires, derrière Guillaume II, la toute-puissance de Guillaume II, bref, un bloc monolithique qui se trouvait derrière son chef. Il a été très impressionné probablement aussi par la personnalité de Guillaume II, ce qui ne signifie pas qu'il était un admirateur de Guillaume II, mais ça l'a beaucoup frappé. Pour ce travail de thèse, je me suis souvent référé à l'histoire de la Troisième République de Raymond Recouly, qui est beaucoup plus réservé sur la personnalité réelle de Guillaume II. Mais à l'époque, tous les Allemands étaient derrière leur empereur et lui obéissaient. C'était monolithique. Nous continuons. Alors, vous avez là un texte qu'il avait fait dans l'optique de son livre sur la guerre civile, « La révolution est fatale ». Il a laissé... Je ne vais pas vous le lire, je vais le sauter, je vais vous le lire... il a laissé en fait des archives considérables qui étaient détenues par sa famille. J'ai bien connu le dernier fils du colonel Drian, parce que dans sa famille, comme dans la mienne d'ailleurs, on a sauté une génération. Donc j'ai très bien connu M. Robert Drian, il était âgé, mais en parfait état de marche, et il disposait de toutes les archives familiales, portant en partie sur Boulanger, mais en très grande partie sur Drian. Alors ça ne suffisait pas pour faire une thèse, évidemment, parce qu'il y avait tout l'environnement de Drian. Ceci n'était pas dans les archives familiales. Mais en revanche, ses conceptions, ses façons de penser, ont fait l'objet de nombreuses conférences qu'il a faites entre, dès qu'il est revenu à la vie civile, des articles de presse, des conférences. Les manuscrits des conférences ont été conservés. Donc c'était une source absolument inestimable qui, assez curieusement, n'avait jamais été utilisée. Vous avez là la reproduction du début d'un manuscrit de conférence, un texte, dont le titre, je vous le donne seulement, La révolution est fatale. Bon, il explique ensuite pourquoi. Il y a peut-être une dizaine de pages manuscrites. D'autres manuscrits de conférence sont dactylographiés. Je vais vous en montrer un. Alors là, on sait donc parfaitement ce qu'il pensait du fait de toutes les archives, ses papiers personnels, de toutes les archives qu'il a laissées vous passer. Voilà, alors un mot sur l'affaire des fiches, il était encore militaire, je vous ai dit qu'elle avait complètement brisé sa carrière, l'affaire des fiches, les premières années du XXe siècle, ça a enclenché sur l'affaire Dreyfus, que je ne passe pas sous silence, l'affaire Dreyfus, les dernières années du XIXe siècle. Alors je me suis demandé longtemps, quand je faisais ce travail, après tout, quelle était la position de Drian par rapport à l'affaire Dreyfus, à vrai dire, elle n'était pas très originale. Vous savez que Dreyfus a été jugé par deux conseils de guerre successifs, sujet extrêmement complexe. Drian s'est contenté de dire et d'écrire « J'ai une entière confiance dans les officiers qui composaient les conseils de guerre, donc je m'en remets à leur décision. S'ils avaient déclaré Dreyfus innocent, je n'ergoterais pas en disant qu'après tout, il était un petit peu coupable. » Bon, donc son point de vue finalement n'était pas très original, était assez modéré, je m'en remets, disait-il, aux décisions des tribunaux militaires. Il a d'ailleurs assisté à la parade de dégradation à l'école militaire, dont il a laissé une relation tout à fait intéressante dans l'éclair. Bon, le sujet est immense, je ne cherche pas à l'éluder, mais voilà en quelques mots ce qu'on peut en dire. Alors en revanche, si l'affaire Dreyfus ne l'a pas passionné, il n'en a pas été de même pour l'affaire des fiches, qui a vraiment affaibli considérablement l'armée française jusque, vous voyez, c'est la dernière ligne de cette vue, jusqu'aux alentours de 1900, au début de 1912. Et cette affaire des fiches a eu comme conséquence, en particulier, les limogeages de 1914. On peut lire dans ce domaine le livre du colonel Recol, L'hécatombe des généraux, quand il a fallu écarter du commandement un grand nombre de généraux qui avaient été promus sur des critères politiques dits de républicanisme, mais en l'occurrence, ça n'était pas des critères professionnels. Toute l'histoire des limogeages découle de l'affaire des fiches, avec un décalage de quelques années. Alors ça a frappé en plein la carrière de Drian, c'est pour cette raison qu'il a quitté l'armée en 1905. Nous passons, frustrant, nous passons. Alors là, un mot sur Maurice Barrès. Maurice Barrès a fait beaucoup, surtout après la mort de Drian, pour le culte de sa mémoire. d'autres chefs de corps que lui ont été tués à la guerre, mais il était connu, nous y reviendrons tout à l'heure, et Maurice Barrès a fait beaucoup pour le souvenir de Drian. Vous passez ? Alors, un mot sur Jaurès. Il a affronté Jaurès, notamment à la tribune de la Chambre, et Jaurès avait signé un énorme volume intitulé L'armée nouvelle. Enfin bref, Jaurès prônait l'armée de milice. Si l'armée d'active est battue, l'Allemagne trouvera en face d'elle le peuple en armes, et ce peuple en armes saura la faire reculer. Bon, l'armée de milice, l'expérience l'a montré, était une rêverie extrêmement dangereuse, puisque que ce soit en 70, en 14 ou en 40, les plans d'attaque allemand était basé sur la rapidité, avant tout. Il est bien certain que si la France avait confié sa défense uniquement à une armée de milice qu'il aurait fallu convoquer, mobiliser, réunir dans les dépôts, acheminer vers le front, à la vitesse à laquelle l'armée allemande attaquait, il n'était même pas nécessaire de faire une mobilisation. Il avait écrit il avait écrit à la Chambre à Jaurès, que vous avez sous les yeux, hein, vos milices en armes, votre peuple en armes n'arrêtera rien, et l'armée allemande que je viens de voir au milieu de Silésie passera au travers de vos bandes populaires comme la locomotive fend le troupeau de moutons égaré sur la voie. Jaurès, il y a aussi Hervé. Je n'ai pas le temps de vous parler d'Hervé, n'est-ce pas, que celui qui a planté le drapeau dans le fumier soit maudit. Nous continuons. Et vous avez là... Ah oui, alors vous avez là, oui, quand même, là, c'est à tête de timbre. À gauche, c'est Jaurès. À droite, c'est Péguy. Alors Jaurès et Péguy avaient communié dans le camp Dreyfusard. Bien. Puis ensuite, ça s'était gâté, et ils s'étaient violemment opposés. Vous savez que Péguy a été tué dans les premières batailles de 1914. Alors Péguy avait écrit à peu près à cette époque, en parlant de Jaurès, l'une des premières choses à faire si la guerre est déclarée, ce sera de fusiller Jaurès. Nous ne partirons pas au front en laissant derrière nous un traître qui nous poignardera dans le dos. C'est du Péguy. Alors vous concevez qu'à partir de leur destinée réciproque, on puisse se livrer à de longs développements. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Quant à Drian, parlant de l'anarchiste Hervé, il avait écrit, lui, si dans la prochaine guerre, j'ai l'honneur de commander, comme j'en ai le droit, un régiment de territorial, je ferai fusiller sans pitié avant de partir à la frontière. Si jamais il me tombe sous la main, le bandit qui a planté dans le fumier le drapeau de la France. Vous continuez ? Alors ça, attendez, c'est un texte. Protestation. Protestation d'une ligue. Drian avait contribué à fonder des ligues. Et là, protestation contre le transfert au Panthéon des cendres de Zola, Zola insulteur de l'armée. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous la commenter en détail. Mais Zola avait écrit la débâcle, ça avait été très mal reçu, et le transfert de Zola au Panthéon avait été jugé comme une insulte insupportable à l'armée. Ce texte avait été diffusé à l'époque par la Ligue dite de la vieille armée, sous l'impulsion de Drian, qui réunissait des militaires en retraite. Vous continuez. Ah bah oui, vous avez parti de là. Bon, alors voilà la vieille armée, Zola, insulteur de l'armée, le triste courage de salir devant l'étranger les oreilles du vaincu de 70. Continuez. Alors ça, c'est très intéressant. C'est également un texte qui appellerait très long développement. C'est un texte de conférence, d'actylographié, comme vous le voyez. Le titre, La bataille moderne. Le titre, La bataille moderne. Et il a introduit là... quelque chose du premier intérêt. Vous voyez que le texte dactylographié comporte des annotations, et notamment en marge, et ça c'est très intéressant, la batterie lourde et la obusier. C'était quelque chose de très controversé à l'époque, parce qu'en 14, en fait, l'armée française était à peu près démunie d'artillerie lourde, c'est-à-dire d'un calibre supérieur au 75. Et le principal tacticien de l'armée, il n'était pas le seul, mais le principal, c'était le général Langlois, qui a écrit il a pas mal écrit, comme beaucoup de militaires, et il soutenait en particulier que pour la guerre en campagne, le canon de 75 suppléait absolument à tout et qu'il était bien inutile de s'encombrer de calibres plus élevés. Bon, il a fallu déchanter ensuite dès le début de la guerre. C'est en particulier pour ça qu'on a récupéré des pièces de calibre plus élevé dans un certain nombre de forts, pas dans tous. L'histoire du désarmement des forts est moins simple qu'il n'y paraît à première vue. Et le général Weygand, dans son livre de mémoire, en 3 volumes, a relaté ses souvenirs personnels du Centre des hautes études militaires, dont il a été auditeur avant la guerre, et de 14, bien sûr. Et il a écrit « Il y avait bien dans les armées qu'on nous a donné à commander sur le papier quelques batteries d'artillerie lourde, mais nous ne sûmes jamais exactement ce qu'on voulait en faire. Ne nous enseigna-t-on pas, écrit Weygand, que le 75 était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les conclusions textuelles du cours d'artillerie qui nous fut professé. » Voilà ce qu'écrit Weygand. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que, contrairement aux idées de Langlois, dont Drian d'ailleurs se réclame, il avait été le subordonné de Langlois quand Langlois commandait le 20e corps à Nancy, cet aspect d'artillerie lourde et de obusiers ne lui avait pas échappé. C'est un texte du premier intérêt, notamment par les annotations manuscrites qui sont en marge. C'était dans les archives de la Fabille. Vous voyez le travail intéressant d'exploitation historique. Vous continuez. Alors là, Poincaré, un Lorrain très célèbre, vous savez qu'il se faisait conduire dans les petits chemins de fer à proximité de la ligne de feu, et que là, il apercevait de l'autre côté sa maison, ou du moins ce qui en restait. Et à gauche, vous avez Clémenceau, que Drian abominait, et qu'il appelait l'homme sinistre, l'agent de l'Angleterre. Et je me souviens que mon père, qui avait bien connu cette époque, faisait tout à fait chanter les louanges de Poincaré en disant qu'en 17, Poincaré avait eu l'honnêteté d'appeler Clémenceau au gouvernement, bien qu'il ne l'aimât pas. Clémenceau s'était révélé à ce moment-là, mais auparavant, qui aurait voulu frayer avec Clémenceau? Presque personne. Voilà, il est intéressant, là, je crois, d'associer les deux images sous forme de timbre, Poincaré et Clémenceau. Vous passez? Et là, bon, Madrian, en campagne électorale, vous pouvez voir le chapeau haute forme, se réclamait du parti de l'Action libérale populaire qui a existé en gros entre 1900 et 1914 avec comme devise la patrie avant le parti. C'est tout dire. Continuez. Voilà, alors retour aux armes. Bon, alors je vais aller plus vite, vous continuez. Vous continuez, alors là... Bon, c'est l'aspect... Là, non, revenez quand même un petit peu en arrière. Oui, c'est ça. Bon, vous avez là la trouée de charme dont je vous parlais tout à l'heure. Et en 14, le plan allemand comportait évidemment le plan Schlieffen de contournement par la Belgique, mais également un plan visant à enrouler l'armée française, ce terme consacré par son aile droite, en perçant la trouée de charme, le fort de... Manonvillers est quelque part par là, et également en passant par Verdun, de façon à enrouler le rideau nord de Serré de Rivière qui constituait l'aile droite de l'armée française. Et j'ai indiqué, parce que nous sommes à Épinal, j'ai indiqué à côté d'Épinal le fort du Xeignet. Petit clin d'œil aux habitants d'Épinal. Bon, vous passez. Alors là, on peut en dire un mot également. L'invasion de 14, comme vous le savez, a été absolument épouvantable pour les populations civiles. Ce dessin est tiré de la guerre de demain. Continuez. Et j'ai fait là une diapositive sur laquelle je ne m'apesantirai pas, mais qui concerne tous les villages martyrs dont les populations ont été massacrées à l'arrivée des Allemands en 14. Ça explique certainement pour une large part l'exode massif de 40, même si ça s'est mieux passé en 40, si l'on peut dire en 14, les deux occupations ont été très différentes, c'est complètement dehors de mon sujet. Bon, je ne suis pas du tout en train de dire que c'était tout très bien pendant la Deuxième Guerre, mais là, je me souviens que quand je faisais ce travail, un jour j'étais en Lorraine, quelqu'un d'informé m'avait dit qu'il y a eu chez nous plusieurs oradours dont on n'a jamais parlé, ou dont on ne parle plus depuis longtemps. Vous passez ? Une vue de Drian pendant la guerre, bon, il avait pris le commandement d'un groupe de chasseurs formé de 2 bataillons de chasseurs à pied. Vous passez, on allait assez vite. Là, C'est alors Lunéville, Nancy. La ligne continue qui est là, c'est le tracé de stabilisation du front, puisque les Allemands ont réussi à occuper ce qu'on appelait la hernie de Saint-Mihiel, qui coupait la voie ferrée de la vallée de la Meuse. Mais ils ont été repoussés de la trouée de Charmes et la ligne de front s'est stabilisée près de Nancy, un petit peu en arrière de Nancy. Et à noter d'ailleurs que la famille Drian habitait le château de Pixricourt, à côté de Nancy. Et donc M. Drian m'avait expliqué que Drian avait tenu son père, donc avait tenu à ce que la famille restât à Pixricourt pour bien montrer sa foi dans la préservation de Nancy, dont il était en même temps le député. Donc toute la famille Drian a passé la guerre à Pixricourt, et après la mort de Drian, ses deux jeunes fils, Robert et Raoul, voulaient s'engager pour venger leur père, mais ils étaient trop jeunes. Bon, vous passez. Une vue intéressante, Drian souriant, c'était assez rare, examinant un appareil photographique. C'est sur le fond de Verdun, vous passez. Là, une vue très connue, il y a de nombreuses vues de la guerre. Hein. Il est là, à l'entrée d'un abri, avec un jeune garçon qui avait suivi les chasseurs. On connaît son nom, d'ailleurs, voyez, il a un habit, là, Germain Baron, je crois, il a un habit approprié à son âge. Et évidemment, pendant les combats, on le renvoyait à l'arrière, vous passez. Drian est au milieu du groupe. Une très belle vue, la Croix des Chasseurs. On en a inauguré tout récemment une réplique à Vacheroville. Elle avait été faite initialement par un sculpteur dans des bataillons, dans la glaise des tranchées. C'est une image en pied de la patrie. Une jeune femme qui, dans un mouvement magnifique d'imploration, écrivait-il, supplie le Dieu de la France de lui donner la victoire. Et on vient de la refaire et de la réinaugurer à Vacheroville. Bon, vous passez. Alors là, bon, je ne vais pas m'attarder, ce sont les axes d'effort allemands au niveau du bois des corps. Les positions du bataillon de chasseurs sont là-haut, indiquées en bleu. Et les axes d'effort allemands, du moins au début de l'attaque, sont en rouge. La direction finale d'effort allemand consistant à passer entre l'effort de Souville et de Douaumont, qui étaient les deux points hauts du terrain. Mais là, on n'était pas là, c'était le début de l'attaque. Vous passez. Alors là, n'essayez pas de voir, c'est pas fait pour être lu. C'est un extrait du livre du commandant Grasset, Verdun, le premier choc de la 72e division. Disons que c'est un plan, mais vraiment c'est dommage que ce soit éclairé dans la pièce. C'est un plan directeur du bois des corps. En noir, il y a toutes les moindres layons, les allées forestières, les villages, et en rouge sont toutes les indications tactiques correspondant aux occupations du bois des corps par le bataillon de chasseurs, mais tout y est, les tranchées, les grands gardes, les points d'appui. Évidemment, là, vous voyez le combat de nègres dans un tunnel, si je puis dire. Simplement, ce combat du bois des corps fait heureusement l'objet d'un livre extrêmement détaillé, celui du commandant Grasset, dans sa série générale « La guerre en action ». Vous passez. Oh, allez, on va tenir. Là, bah, c'est l'un des derniers billets manuscrits. Ce sont des textes classiques envoyés par Drian à ses supérieurs pendant les combats. Ça mettait des heures à parvenir. Hein, et ça se termine en disant « Nous espérons qu'une contre-attaque va nous dégager un bref délai ». Et en fait, les délais de transmission étaient tels que ces papiers-là n'arrivaient jamais à temps. Vous passez. Là, alors, Drian a été tué le lendemain de l'attaque allemande, donc le 22 février 1916. Pendant longtemps, son sort a été inconnu. Il est paru dans les journaux des vues d'artistes du combat du bout des corps. On voit la une. En fait, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité. Vous passez. Voilà. Alors là, le culte du souvenir. Vous passez. Une tombe de Drian, là, l'histoire des combes elle-même est compliquée, il y a eu plusieurs tombes successives. Il a d'ailleurs été inhumé dès le départ, très correctement, par les Allemands. Et vous passez, là, le culte du souvenir, c'est entre les deux guerres, ça concerne les fortifications de Metz, c'est ce qu'on a appelé les groupes fortifiés, en allemand, les Fest ou Festen en allemand, et les groupes fortifiés de la ceinture extérieure de Metz ont été rebaptisés de noms français après la guerre. Vous avez tout à fait en bas le groupe fortifié de Drian, ex-Comprinz, qui a été violemment attaqué par les Américains en 1944. Le groupe fortifié a résisté pendant plusieurs mois avant de se rendre, faute de munitions ou de nourriture. Mais enfin, c'est connu dans l'histoire militaire américaine sous le nom de combat du Fort Drian. Le groupe fortifié Drian a opposé une très sérieuse résistance aux Américains. Vous passez ? Voilà, alors là, deux timbres, ça fait partie des... Alors, à gauche, la croix de guerre, parce que pendant la guerre, Drian a trouvé, dans les débats parlementaires, cette idée, une nouvelle décoration pour les combats, tenez, si on l'appelait la croix de guerre, donc voilà un timbre commémoratif, alors j'y tiens beaucoup, non pas au timbre, mais à la croix de guerre, parce que mon père l'a reçu à l'époque, hein, pour avoir ramené au terrain son triplace Lutter, alors qu'il était blessé, et il a ramené l'avion et les deux mitrailleurs du... à l'avant, à l'arrière, ça lui a valu de recevoir la croix de guerre. Donc j'ai une dilection particulière, non seulement pour Drian, mais pour la croix de guerre, parce que mon père l'a reçu, a vu la photo d'ailleurs. Vous passez, ça se termine. Les galons de Drian qui ont été prélevés sur son corps, c'est l'avant-dernière, hein, qui ont été prélevés sur son corps lors d'une exhumation qui a été faite dans les années 20. D'ailleurs, l'adresse est en dessous. Pourquoi ces triangles bleus et jaunes, ça fait référence à un livre de mémoire d'un chasseur de Drian qui est intitulé Fanion Bleu Jonquille. Vous savez que les chasseurs ont une terminologie particulière. Jaune, c'est jonquille, rouge, c'est bleu cerise, etc. Fanion Bleu Jonquille a été écrit par un officier d'un des bataillons de chasseurs. Alors, pour terminer, eh bien, disons seulement que je vous invite à un moment de recueillement. Je regrette d'avoir été obligé de saboter un petit peu cet exposé en allant trop vite. Mais enfin, imaginons un instant que Drian, là, sur cette terre lorraine, est parmi nous. Il apprécie que nous pensions à lui, que sa mémoire, en ce moment, à cause des commémorations, soit quand même quelque peu exhumée de l'oubli où elle était tombée. Et imaginons-nous un instant que là où il est, eh bien, il nous envoie ses amitiés. Vous passez à la suivante. Voilà.
Ah oui, ça fait 45 minutes.
Écoutez, merci beaucoup. Non, vraiment, merci. Merci beaucoup.
Alors, vous pouvez faire votre choix parce que tout est survolé. Je comprends très bien qu'il en soit ainsi, mais c'est un peu dommage. Mais j'étais prévenu, je ne me plains pas.
Vraiment, voilà. Merci beaucoup, Monsieur David, parce que ça a été parfait. Vous nous avez fait un bref exposé, mais qui en même temps était, je crois, tout à fait complet. Je pense que nous avons quand même le temps pour une ou deux questions, s'il y en a.
Oui, où sont les archives, me demande-t-on. Il existe tout de même des documents dans les archives publiques militaires, d'une part. Bon, d'autre part, la plus grande partie des archives était, et toujours, je pense, détenue par les descendants du colonel Drian. Bon, il y a plusieurs branches de la famille, mais enfin, essentiellement, c'était aux mains de M. Robert Drian et de son épouse, donc, que j'ai bien connue, et qui avait des caisses entières d'archives qu'il conservait. Ce travail s'est terminé. Moi, j'ai passé la thèse en 93, ça fait un certain temps. Les archives, à ce moment-là, étaient aux mains de la famille. Je ne sais pas ce qu'elles en ont fait, s'ils en ont fait, mais je pense qu'elles sont en lieu sûr et vraisemblablement toujours aux mains de la famille Drian. Alors, si vous vouliez vous y intéresser ou travailler dessus, la première chose à faire, ce serait de leur téléphoner pour leur demander ce qu'il en est. C'est très facile, ils sont dans l'heure du téléphone à Paris. Voilà. Alors, chose curieuse, personne n'avait jamais eu l'idée dans les milieux historiques de faire ce travail qui pourtant s'imposait. D'autant plus, il y a quand même toute la dimension lorraine qui n'est pas négligeable. Hein. Il a été député de Nancy, il était toujours député pendant la guerre. Il y a une connotation nancéenne et lorraine très importante.
Une autre question ?
Oui, pourquoi ? Bon, j'avais une. Oui, bien sûr. Bon, j'avais une. D'abord, à mon âge, on apprenait au début de la bataille de Verdun, les chasseurs de Drian, ça faisait partie des programmes scolaires, bon, d'une part. Bon, d'autre part, pour des raisons familiales diverses, j'avais entrepris de refaire, parce qu'elle existait, pas fameuse, une collection complète de Jules Verne. C'est un travail de longue haleine, ça demande beaucoup de temps et pas mal d'argent également. Et puis, cette collection de Jules Verne avait été faite par avec les conseils, l'aide d'un libraire expert parisien, M. Rotel. Qui n'est plus là, malheureusement. Monsieur Rotel, quand la collection de Jules Verne se terminait, m'avait dit, ben, vous devriez, vous qui êtes officier de réserve, vous intéresser à Drian, parce que Drian, ça a été le Jules Verne militaire. Et il m'a branché de cette façon sur Drian d'un point de vue bibliophilique. Alors, je connaissais Drian. Et puis, par la même occasion, on a fait Paul d'Ivoire. mais enfin, c'est venu par Jules Verne, et par le fait que j'étais déjà orienté sur les sujets militaires. D'ailleurs, la thèse que j'ai faite, indépendamment de ma profession, est une thèse d'histoire militaire de l'Université de Montpellier. Mais elle est bien indiquée, thèse d'histoire militaire. Voilà. Mais c'est venu par le canal de la bibliophilie.
Très bien. Ben, je crois que nous allons devoir arrêter là, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise, parce que je vous invite tous à venir demain après-midi, où nous retrouverons Monsieur David avec Mathieu Letourneux, là pour discuter vraiment en profondeur des aspects littéraires. Donc demain, nous nous intéresserons au Jules Verne militaire.
Voilà, alors il y a eu une trilogie, Jules Verne, et puis alors 30 ans plus tard, né 30 ans plus tard, deux autres auteurs, Drian et Paul d'Ivoire, quelque chose curieuse, avaient le même âge, sont nés 30 ans après Jules Verne et sont morts à peu près au même moment, 1916 pour Drian et pour Paul d'Ivoire, à peu près la même chose. Donc il y a vraiment eu un triangle, Jules Verne au sommet, et puis de chaque côté de la base, Drian et Paul d'Ivoire, avec chacun leur spécificité, naturellement.
Voilà. Et donc, et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, donc, à lire le livre de Monsieur David, qui est d'une richesse iconographique en détail, etc., absolument prodigieuse. Et donc, potassez-le ce soir, comme ça vous pourrez lui poser plein de questions demain. Merci beaucoup, Monsieur David.
C'est normal. C'est formidable. Tu viens comme le maître.